Vous écoutez, on lit pour vous.
La formation des femmes yukonaises au métier de pompière fête ses 10 ans. Un texte de Kelly Tabuteau, paru le 26 septembre 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Du 9 au 14 septembre dernier, au service de pompiers volontaires d'Utalinka et d'Ibex Valley, s'est tenue la 10e édition du camp Ember. Ce programme intensif et gratuit est destiné aux femmes âgées de 16 ans et plus. Les 12 recrues sélectionnées cette année ont exploré la profession de pompière dans un cadre inclusif et solidaire. Au sein de ce programme de 6 jours, les recrues réalisent des tâches effectuées par les services de lutte contre l'incendie et les groupes de première intervention. Elles apprennent notamment à utiliser l'équipement et le matériel de protection personnelle, à sortir des personnes prisonnières dans un véhicule, à réaliser des sauvetages en hauteur à l'aide de cordes et d'échelles, ou encore à éteindre des feux de bâtiments. Depuis sa création, en 2014, le camp Ember n'a fait que gagner en popularité. Si, dans les premières années, il a été difficile de trouver des recrues, la sélection est aujourd'hui plus ardue. Cette année, par exemple, il y avait 56 candidatures pour 12 places. Pour la chef, Kiara Adams, dirigeante du camp Ember depuis une dizaine d'années, c'est un vrai succès. Dans les services d'incendie au Canada, les femmes sont généralement sous-représentées. Au Yukon, grâce au camp Ember, le nombre augmente, observe-t-elle. Beaucoup de femmes ne considèrent pas la lutte contre les incendies comme une activité qui leur est destinée. Le camp leur permet de voir de quoi il s'agit et de constater qu'en fait, ça leur offre de grandes possibilités, continue-t-elle. Des recrues aux motivations similaires. Marie Hamji et Catherine Hein, recrues francophones de cette 10e édition, ont toutes les deux postulé pour découvrir de nouvelles choses. « Je travaille au dispatch, centre de répartition des appels, depuis quelques années, et ça m'a toujours intéressé de voir l'envers du décor. Ce qui se passe après un appel et comment les gens répondent à différents types d'incidents », indique Marie Hamji. J'avais besoin de changements et de découvertes. Savoir comment protéger ma maison et prendre soin de ma communauté était important. J'habite dans un trailer park, parc à roulotte. Il y a beaucoup d'années, je voulais prendre toutes les informations que je pouvais pour aider s'il arrive de quoi, explique Catherine Hein. Un environnement inclusif. Dès l'inscription au camp Ember, tout est mis en place pour favoriser un environnement sûr. J'ai vraiment aimé le processus de recrutement. À aucun moment on ne demande l'âge ou la condition physique. Les questions posées, c'est pour sentir ta motivation et tes qualités interpersonnelles, témoigne Marie Hamji. Cet environnement inclusif et bienveillant est mis en place par les instructrices du camp, la majorité étant d'anciennes recrues. C'est le cas d'Anna Lee, qui a participé au camp en 2019. Pour cette dernière, les défis du camp sont très personnels. C'est toi contre tes plus grandes peurs. En tant qu'instructrice, j'ai le rôle de rassurer les recrues. J'ai été dans leurs souliers. Je sais exactement par quoi elles passent. Le fait qu'ici, c'est hyper accueillant et sécuritaire, les gens semblent très confortables de dire « je ne me sens pas confortable ». C'est correct d'avoir peur. Alors, on va toujours leur donner une deuxième opportunité d'essayer, explique-t-elle. Des défis physiques et psychologiques. Pendant 6 jours, les exercices pour s'initier au métier de pompière s'enchaînent, mettant le corps à rude épreuve. Le programme prévoit même un atelier pour apprendre à adapter son alimentation pour maximiser les résultats de l'entraînement et la récupération. Marie Amjé s'était préparée à une semaine physique. Pourtant, dès la fin de la première journée, elle s'est demandé comment elle allait tenir, car la journée avait été vraiment intense. C'est super bien fait. Tous les matins, on faisait des exercices en rapport avec ce qu'on allait faire dans la journée, comme un échauffement. Et je me suis surprise moi-même à pouvoir recommencer pendant 5 jours, détaille-t-elle. Pour Catherine Hine, les défis ont été davantage mentaux. On a fait des exercices avec notre masque d'oxygène et des sacs de poubelle par-dessus notre tête pour apprendre à utiliser une caméra thermique. Ce sont des sensations nouvelles. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es avec de nouvelles personnes. C'est un peu « overwhelming », confie-t-elle. Depuis 2014, le camp Ember a formé 119 recrues. À ce jour, 26 anciennes recrues se sont jointes à des services d'incendie du territoire. Marie Amjé pourrait être la prochaine. J'y allais pour apprendre et découvrir un univers. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de devenir pompier volontaire. Et ça, je ne m'y attendais pas. Un mix de l'esprit d'entraide, de voir toutes ces femmes de casernes différentes s'entraider beaucoup plus que ce que je pensais, et de service à la communauté, conclut-elle. C'était la formation des femmes yukonaises au métier de pompière fête ses 10 ans. Un texte de Kelly Tabuteau, paru le 26 septembre 2024, dans l'aurore boréale du Yukon.
Duino, souvenir romantique. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 3 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Chanteur, danseur, acteur et désormais scénariste-réalisateur, l'Argentin Juan Pablo Dipache a eu une longue carrière sur scène et à l'écran, se produisant en Europe dans plusieurs comédies musicales, dont Chicago et Saturday Night Fever. Il est également apparu dans plusieurs films dont Mamma Mia et la comédie dramatique queer The Mattachin Family, ainsi qu'à la télé dans Dallas et Fuller House. Avec Duino, qu'il a réalisé avec Andrés Pepe Estrada, il signe un premier long-métrage semi-autobiographique. Dipache s'est entretenu avec Fugue. Ce drame sensible et captivant dépeint l'amitié intime qui se développe entre deux adolescents. Le timide Argentin Mathias, Santiago Madrusan, et le Suédois extraverti Alexander, Oscar Morgan, qui se rencontrent au collège à Duino, en Italie, durant les années 1990. Des décennies plus tard, devenu adulte, Mathias, Dipache, a du mal à monter un film qu'il a réalisé sur ses expériences inachevées avec Alexander, lorsqu'il a l'opportunité de retrouver l'homme qui s'était enfui. Comment en êtes-vous venu à réaliser Duino? Duino est un film de fiction, mais basé sur quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Ce n'était pas que je voulais absolument faire un film autobiographique, mais il était important pour moi de parler de personnes et de situations que je connaissais très bien pour ce premier film, dont j'ai écrit le scénario. Je l'ai co-réalisé avec Andrés Pepe Estrada, mon meilleur ami depuis mon adolescence et qui a été le monteur d'Argentina 1985, nominé pour un Oscar. J'ai beau avoir une carrière comme acteur, Duino a littéralement été un cours de maîtrise en réalisation cinématographique. Je ne connaissais pas grand-chose aux angles de caméra et aux règles du cinéma de l'autre côté de la caméra. J'ai tout appris et Andrés a été mon guide et mon garde-fou. Ce fut une belle collaboration. Je danse depuis toujours et quand on est danseur, on voit le monde différemment, je crois, un monde où tout tourne autour du rythme dans une certaine forme de chorégraphie. Ma principale inspiration en tant que réalisateur, c'est Bob Fosse. Avec Duino, le directeur photo a tourné souvent à l'épaule pour plus d'agilité et mieux incarner les souvenirs. On pourrait dire que le personnage de Mathias réfléchit trop et il est peut-être trop proche du film qu'il fait sur sa vie. Avez-vous trop réfléchi aux choses en créant Duino? Je suis sans doute incroyablement mélancolique, mais je vois la vie comme une série de scènes. J'ai tendance à voir les expériences, qu'elles soient négatives ou positives, comme les séquences d'un film. Quelque chose de puissant et d'inachevé est arrivé à Mathias durant son adolescence, il y a 40 ans, et il a gardé cela enfoui dans sa mémoire. Et quand il décide de revisiter ce moment de sa vie dans une création artistique, il travaille avec quelque chose qui s'est déjà produit. Il ne veut pas altérer le souvenir qu'il a de ce moment, car il est puissant, précieux et parfait. Il craint que ce souvenir change s'il revoit cette personne. C'est toujours un risque. Pour lui, il s'agit de profiter de la mémoire de cet instant tel qu'il s'en souvient. Avec Duino, je m'intéresse davantage à ce que les personnages ressentent et pensent plutôt qu'à ce qu'ils disent. En ce sens, je crois avoir réalisé un film très sensoriel. C'était Duino, souvenir romantique, une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 3 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Que faire pour mieux dormir? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 octobre 2024 dans la presse. Plus d'un Canadien sur 7 prend du cannabis pour mieux dormir, rapporte une nouvelle étude. La proportion est encore plus élevée chez les jeunes adultes. Mais est-ce que c'est efficace? Plein feu sur le combat contre l'insomnie. Devrais-je prendre du cannabis si j'ai des problèmes de sommeil? Ce n'est pas une solution durable pour l'insomnie. Le cannabis aide à s'endormir au départ, mais si on en prend régulièrement, il faut augmenter la dose pour que l'effet somnifère perdure, indique Charles Morin, psychologue spécialiste du sommeil à l'Université Laval, qui est aussi l'auteur principal de l'étude publiée dans la revue Sleep Medicine. Il y a peu d'études sur l'effet du cannabis sur la qualité du sommeil. On ne peut donc pas déterminer s'il nuit à la qualité du sommeil, comme l'alcool, précise M. Morin. Mais il y a des études sur l'impact négatif du cannabis sur la santé mentale des jeunes. Fait à signaler, c'est la première fois que M. Morin pose cette question dans son enquête sur l'insomnie qu'il mène depuis 2007. Qu'en est-il de l'alcool? Mieux vaut éviter de prendre un petit verre pour s'endormir plus facilement. L'alcool diminue la qualité du sommeil dans la deuxième moitié de la nuit, souligne M. Morin. C'est le moment où on consoliderait la mémoire, donc il y a probablement des aspects cognitifs négatifs à l'utilisation de l'alcool avant de dormir. Malgré cela, un Canadien sur 10 a recours à l'alcool comme aide au sommeil, une proportion 2 fois plus élevée qu'en 2007. Et les somnifères? En raison du problème d'accoutumance, les somnifères représentent une solution peu enviable pour régler l'insomnie chronique. Si on continue longtemps à prendre des somnifères sur ordonnance, on peut avoir des problèmes d'accoutumance et avoir besoin de plus fortes doses, prévient M. Morin. les somnifères en vente libre, comme la mélatonine ou la valériane, sont potentiellement moins dangereux, précise M. Morin. Mais il y a peu de preuves de leur efficacité. On sait que la mélatonine aide pour certains problèmes de sommeil chez les adolescents et aussi pour le décalage horaire. Mais c'est tout. Il y a aussi un risque avec les produits naturels qui sont beaucoup moins réglementés que les médicaments pharmaceutiques. Ils peuvent contenir des contaminants, dit M. Morin. Malgré ces problèmes, les somnifères sont de plus en plus populaires. Depuis 2007, la proportion des Canadiens qui utilisent des somnifères sur ordonnance est passée de 10 à 15% et de 15 à 29% pour ceux en vente libre. Comment lutter contre l'insomnie, alors? L'idéal, c'est la psychothérapie. Ça marche dans 70% des cas, et dans un cas sur deux, l'insomnie est réglée à long terme, indique M. Morin. La psychothérapie mise sur pied par M. Morin, qui dure de 2 à 3 mois, comporte 2 volets. Le premier est comportemental et vise à améliorer les habitudes de sommeil. Si le patient a l'impression de dormir moins qu'il devrait, disons 6 heures plutôt que 8, on lui propose de compresser sa nuit à 6 heures. Ensuite, on augmente de 20 minutes par jour. Il faut aussi éviter les écrans ou les activités stressantes avant de dormir. Le deuxième est cognitif. On travaille sur les ruminations, les obsessions et les inquiétudes liées au sommeil, explique M. Morin. Dans une étude publiée fin 2023 dans la prestigieuse revue JAMA Network, M. Morin a montré que la psychothérapie est aussi efficace qu'un somnifère sur ordonnance pour guérir l'insomnie et diminue même davantage l'anxiété liée à l'insomnie. Mais il y a tellement peu de gens qui ont recours à la psychothérapie pour l'insomnie que M. Morin n'a même pas inclus cette question dans son enquête. Peut-on mettre en application certaines approches psychothérapeutiques sans psychothérapie? Oui, grâce à un guide d'auto-soin mis au point par M. Morin et publié par le site Dormez là-dessus Canada. On y apprend par exemple qu'il vaut mieux limiter les siestes à moins de 20 minutes, éviter les écrans et la lumière trop vive avant de se coucher et aller au lit seulement quand on est fatigué. À noter, les liseuses ne font pas partie des écrans à éviter avant de dormir parce qu'elles ont un filtre pour la lumière bleue la plus dommageable. Qu'est-ce que cette nouvelle étude change pour moi qui suis insomniaque? Elle peut calmer certaines insécurités. Recourir au cannabis, à l'alcool ou encore à des somnifères sur ordonnance n'est pas idéal pour régler un problème d'insomnie chronique. Mais beaucoup de gens y ont recours. Ça ne sert donc à rien de se sentir coupable si on le fait. Par ailleurs, les problèmes d'insomnie chronique, 3 fois par semaine, pendant plus de 3 mois, touchent 1 Canadien sur 7. Et le quart des Canadiens sont insatisfaits de leur sommeil. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous n'êtes donc pas seul. En savoir plus, source Sleep Medicine, 3-4 fois par semaine, fréquence d'utilisation de somnifères sur ordonnance par ceux qui en prennent. 4 fois par semaine, fréquence d'utilisation du cannabis pour dormir par ceux qui en prennent. 1,3, les femmes souffrent 1,3 fois plus d'insomnie chronique que les hommes. C'était « Que faire pour mieux dormir ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 octobre 2024 dans La Presse.
Ottawa doit interdire la négation du drame des pensionnats pour Autochtones, dit l'interlocutrice spéciale. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Le gouvernement fédéral doit modifier le code criminel pour interdire le fait de fomenter volontairement la haine envers les peuples autochtones, demande l'interlocutrice spéciale indépendante pour les lieux de sépulture non marqués autochtones, Kimberly Murray. Cette requête fait partie des 42 obligations juridiques, morales et éthiques soulignées au gouvernement du Canada dans un volumineux rapport final de 1475 pages publié le 29 octobre 2024. Le gouvernement fédéral doit modifier le code criminel pour y intégrer comme infraction le fait de promouvoir volontairement la haine en niant, minimisant ou justifiant le système des pensionnats pour autochtones ou en déformant les faits les concernant, a déclaré Mme Murray depuis la scène du théâtre du Casino à Gatineau devant des centaines de membres de communautés autochtones. Le rapport final de Mme Murray marque la fin de son mandat de 2 ans. Elle avait été nommée à ce poste en 2022 par le ministre de la Justice de l'époque, David Lametti. Ces demandes surviennent quelques semaines après le dépôt par une députée du Nouveau Parti démocratique, NPD, d'un projet de loi qui criminaliserait la négation des préjudices causés par le système des pensionnats pour autochtones au pays. Ce texte législatif, C-413, ajouterait au code criminel le fait de fomenter volontairement la haine contre les peuples autochtones en cautionnant, en niant, en minimisant ou en justifiant le système des pensionnats, à l'exception de paroles tenues en privé. Une personne reconnue coupable de ce crime pourrait être passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Je demande au gouvernement de prendre le projet de loi du NPD et de le faire avancer, a résumé Mme Murray en entrevue avec Le Devoir peu après son allocution. Le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, qui était présent à l'événement, a déclaré aux journalistes qu'il étudierait toutes les recommandations avant de prendre position sur le projet de loi. Plus de 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats leur étant consacrés. Le dernier a fermé ses portes en 1996. Liberté d'expression. En entrevue avec Le Devoir, la députée néo-démocrate Lee Gazan indique que légiférer sur un tel négationnisme est nécessaire dans le contexte où ce type de discours est en hausse à travers le pays. Depuis la découverte de possibles tombes anonymes à Kamloops en 2021, des communautés de partout au pays ont fouillé les terrains des anciens pensionnats dans l'espoir de ramener chez eux leurs enfants disparus. Dans la foulée, toutefois, de nombreuses personnes ont aussi commencé à remettre en cause la présence de telles sépultures. Nous avons tous des droits et des libertés, mais parfois, des limitations à ces droits sont nécessaires et justifiables, indique la députée Gazan. Le juriste Ghislain Otis, professeur de droit de l'Université d'Ottawa, croit quant à lui que ce projet de loi viole la liberté d'expression. Les tribunaux ont adopté une définition extrêmement large de la liberté d'expression au sens de la Charte canadienne. A priori, c'est clair qu'on a une violation de la liberté d'expression, puisque la Cour suprême estime que toute activité expressive non violente est protégée, explique le juriste en entrevue. Ce spécialiste du droit des Autochtones, du droit constitutionnel et des droits de la personne juge que le projet de loi va trop loin et que l'idée de l'interdiction d'un discours qui minimise ou dénature les faits est trop large. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un lien rationnel entre l'objectif poursuivi et les moyens pris, parce que les moyens sont assez draconiens, indique M. Otis. La députée Léa Gazan ne croit pas que son projet de loi aille à l'encontre de la liberté d'expression. Nous avons des limites dans ce pays en ce qui concerne les discours haineux, et c'est exactement ce que mon projet de loi vise à faire, précise-t-elle. les dispositions actuelles du Code criminel, qui interdisent le discours haineux, sont déjà suffisantes, juge le professeur Otis. On semble établir une équation entre fomenter la haine et relativiser, à partir d'arguments raisonnables, certaines allégations, certains témoignages ou idées concernant le phénomène des pensionnats. Ça ne me paraît pas nécessaire pour protéger les Autochtones contre les discours haineux. Questionné en mêlée de presse, le ministre Virani a évité de prendre position sur la question. Des obligations, pas des recommandations. Dans son rapport, Kimberly Murray affirme porter 42 obligations aux yeux du fédéral et non des recommandations, puisque le gouvernement ignore souvent ces dernières. L'interlocutrice spéciale demande également à Ottawa de fournir du financement durable pour la recherche de sépultures et la cueillette de témoignages de survivants. À l'été 2024, le gouvernement fédéral avait annoncé que le financement pour chaque communauté serait plafonné à 500 000 $, alors qu'elle pouvait auparavant recevoir jusqu'à 3 millions de dollars. Il a finalement fait marche arrière quelques semaines plus tard. Ça a été vraiment traumatisant pour les communautés, car elles estiment qu'elles n'ont que commencé leur travail. Elles souhaitent donc un engagement de la part du gouvernement pour être soutenues dans ces enquêtes jusqu'à leur achèvement, ce qui prendra des années, a indiqué Mme Murray au Devoir. Finalement, cette dernière insiste sur la création d'une commission d'enquête sur les disparitions d'enfants autochtones au Canada. La création de cette commission d'enquête aidera les familles qui n'ont pas le soutien nécessaire, comme les équipes actuellement responsables ne se concentrent que sur les sites des pensionnats, et non sur toutes ces autres familles, fait-elle valoir. Le système des pensionnats pour autochtones a été mis en place dans le but avoué de tuer l'Indien dans l'enfant, et a été qualifié de génocide culturel par la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015. Selon les estimations, au moins 150 000 enfants des premiers peuples ont fréquenté ces établissements. C'était « Ottawa doit interdire la négation du drame des pensionnats pour autochtones », dit l'interlocutrice spéciale. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 29 octobre 2024 dans « Le Devoir ».